RFI. Grand reportage.
Ce dimanche, 14 millions de Chiliens sont appelés aux urnes pour le scrutin le plus important depuis la fin de la dictature, il y a 30 ans. Ils devront dire, s'ils souhaitent, oui ou non, rédiger une nouvelle constitution pour remplacer celle héritée du régime du général Augusto Pinochet, au pouvoir depuis 1990. Pour de nombreux Chiliens, ce référendum est une bonne occasion pour mettre fin au modèle économique néolibéral imposé sous Pinochet et à la privatisation de nombreux services publics. Au Chili, l'espoir d'en finir avec la constitution de la dictature, un grand reportage de Justine Fontaine.
Nous sommes sur la Plaza Italia, rebaptisée Place de la Dignité par les manifestants chiliens. Jusqu'à 1 million de personnes s'y sont réunies pendant le mouvement social l'an dernier. Et à mesure que les autorités ont levé le confinement ces dernières semaines, la mobilisation a repris. Ce vendredi, Monica, la cinquantaine, est venue de la banlieue sud de la capitale pour manifester. Elle porte un masque contre les gaz lacrymogènes autour de son cou et un autre masque sur le visage à cause du coronavirus.
Como tú puedes ver, está lleno de Paco. Mi bandera es de la prueba.
Comme vous le voyez, la place est pleine de policiers. Et moi, je porte une banderole qui dit que j'approuve une nouvelle constitution, car la constitution actuelle favorise les puissants. Il faut que les gens votent oui à une nouvelle constitution pour que nous ayons un meilleur avenir, pour notre dignité, pour l'éducation, pour la santé, bref, pour nos droits.
Il y a un an, ce sont les lycéens qui avaient lancé le mouvement contre la hausse du prix du ticket de métro à Santiago. Frauder, ne pas payer, c'est une autre manière de lutter, disait-il, en laissant passer gratuitement les passagers. À ce moment-là, personne n'imagine que le mouvement mènera à l'organisation d'un référendum sur une nouvelle constitution. Mais quand la police réprime durement les lycéens, les rassemblements se multiplient. Certains tournent à l'émeute, le gouvernement décrète l'état d'urgence, le couvre-feu et déploie les militaires dans la rue. En réaction, jusqu'à 2 millions de personnes manifestent dans les grandes villes du pays. Elles demandent la fin du modèle économique imposé sous le régime du général Pinochet il y a plus de 30 ans. Et le soir, comme sous la dictature, on entend de nouveau des concerts de casseroles partout dans les grandes villes contre la précarité et la répression. Pendant les manifestations, plus de 4000 personnes sont blessées par les forces de l'ordre et au moins 5 seront tuées.
Voilà, soy periodista francesa, Justine Fontaine.
Non, Willy.
Willy.
Voilà.
Nous avons rendez-vous avec Alfredo Joignan, professeur de sciences politiques à l'université Diego Portales à Santiago. Pour lui, le référendum prévu ce dimanche est le scrutin le plus important depuis le retour à la démocratie en 1990.
Pour des gens de ma génération, c'est un moment de rêve. Ce sont 40 ans d'emprisonnement mental que l'on a vécu sous la Constitution 1980. C'est la première fois que l'on va se permettre de discuter à peu près tout de la future Assemblée constituante.
Ce dimanche, dans l'isoloir, les électeurs auront à remplir 2 bulletins. D'abord, ils devront indiquer s'ils approuvent ou refusent l'idée de rédiger une nouvelle constitution. Et ensuite, sur le deuxième bulletin, ils devront préciser quel type d'assemblée doit, selon eux, écrire ce nouveau texte. Soit une assemblée composée pour moitié de parlementaires déjà élus et pour moitié de citoyens choisis spécialement pour l'occasion, soit une assemblée constituante entièrement nouvelle. Ce sera la première fois que les Chiliens peuvent se prononcer en toute liberté sur ce sujet. Car au début des années 1980, quand la constitution actuelle a été rédigée et adoptée, le Chili était en pleine dictature militaire.
La constitution de 1980 a été rédigée par des juristes de droite extrêmement conservateurs, surtout sous l'égide de l'idéologue de la dictature chilienne, Jaime Guzmán, qui a été élu par la suite sénateur en 1990, mais qui a été assassiné par un commando d'extrême gauche au mois d'avril 1991. Et Jaime Guzmán, c'est l'idéologue de cette constitution, et elle a été promulguée dans le contexte d'un plébiscite totalement frauduleux au mois de septembre 1981, un plébiscite qui ne comptait pas avec des listes électorales en bonne et due forme, qui n'impliquait pas le rôle d'un organe régulateur indépendant. C'est un plébiscite totalement hors norme, illégitime, sans aucun doute.
À partir de la fin de la dictature, la Constitution a bien été modifiée plusieurs fois pour supprimer les mesures incompatibles avec la démocratie. Mais le modèle économique néolibéral, lui, est resté quasiment intact. C'est ce qu'explique Alfredo Joignan.
Ce qui caractérise la Constitution de 1980, c'est techniquement une privatisation des droits sociaux. C'est-à-dire les droits sociaux en matière d'éducation, de santé et de prévision, retraite, ce sont des droits qui sont garantis dans la mesure où les familles et les individus payent pour eux dans le cadre de programmes et des contrats privés. C'est une constitution extrêmement idéologique puisqu'elle elle organise la vie économique en réduisant en miettes, pratiquement à des niveaux infinitésimaux, le rôle de l'État dans des matières économiques extrêmement décisives. C'est là où on voit le caractère littéralement extrémiste du modèle économique chilien, néolibéral.
Avant le mouvement de l'an dernier, les Chiliens étaient déjà descendus dans la rue à de nombreuses reprises, contre le prix des universités parmi les plus élevés au monde, contre les inégalités dans la santé et contre le système de retraite entièrement privatisé sous la dictature et confié à des fonds de pension très lucratifs. Mais aucune réforme profonde n'a suivi, faute notamment de majorité suffisante au Parlement pour modifier certains articles de la Constitution. Et quand par exemple un projet de loi a été adopté pour encadrer les profits des universités privées, la mesure la plus emblématique du texte a été annulée il y a 2 ans, jugée inconstitutionnelle. L'absence de réformes profondes malgré ces différents mouvements sociaux, c'est ce qui a poussé la famille León à manifester le 25 octobre dernier, l'une des plus grandes manifestations de l'histoire du pays. Nous retrouvons Marcia, sa fille Javiera et son petit-fils Martin dans un quartier de classe moyenne de la Florida, à 1 heure du centre-ville de la capitale. Marcia León, 63 ans, est professeure dans une école maternelle publique. Elle nous reçoit sur sa terrasse où elle fait sécher son linge au pied de la cordillère des Andes. Elle se souvient très bien de cette journée de manifestation.
Il y avait une telle union, c'était un moment historique. Nous étions 4 générations de la même famille à manifester avec les mêmes revendications.
Mi mamá y yo. Lo más probable que no disfrutemos, no alcancemos a ver, sobre todo ella.
Ma mère et moi, nous ne verrons probablement pas les effets de cette mobilisation, mais ma fille, Javiera, et surtout mon petit-fils, Martin, eux, vont sûrement pouvoir profiter des changements que nous allons obtenir.
Mi nieto va a alcanzar a disfrutar cambios que de fondo que se logren.
Aujourd'hui, Marcia gagne bien sa vie, mais si elle prenait sa retraite maintenant, ses revenus seraient divisés par 5.
Claro, yo empecé a cotizar.
J'ai commencé à travailler à l'âge de 30 ans et j'ai cotisé pendant plus de 30 ans sans interruption. L'âge légal de la retraite est de 60 ans. Je devrais déjà avoir pris ma retraite, mais je ne peux pas. Parce que si je la prends, je ne pourrais pas continuer de payer le crédit immobilier. Il faudrait que je vende la maison, que je loue une chambre. J'aurais de quoi me payer à manger. Mais peut-être pas assez pour des médicaments. Je suis plutôt en bonne santé, alors je prévois de travailler, cotiser jusqu'à 69 ou 70 ans pour pouvoir toucher une retraite un peu plus digne.
La pauvreté a beaucoup diminué depuis la fin de la dictature, mais le mouvement social puis la pandémie de Covid-19 sont venus rappeler aux élites politiques la fragilité des classes moyennes. Dettes, emprunts immobiliers, prêts étudiants, la majorité des Chiliens vit à crédit. Et cela commence dès l'université, qu'elle soit publique ou privée, comme en témoigne Javiera León, la fille de Marcia.
Tengo 35, soy abogada. No ejerzo todavía.
J'ai 35 ans et je suis avocate. Je viens d'avoir mon diplôme et à cause de la pandémie, je n'ai pas encore pu commencer à exercer. Mais je suis fière de pouvoir dire que je suis avocate, car c'est le résultat des efforts de toute la famille.
Tampoco hay un papá presente en el Martín.
J'ai étudié en même temps que j'élevais mon fils Martin, sans son père. Les pères sont absents dans cette famille. Et je dois 22 millions de pesos pour mes études, ça fait 28 000 dollars. Tout cela alors que j'ai obtenu une bourse pour financer une partie de mes études et que chaque mois, je payais aussi 200 dollars à l'université. J'aurais déjà dû commencer à rembourser, mais je n'ai pas payé.
Ah, y eso que yo estaba con beca. Eso yo ya debería haberlo empezado a pagar. De hecho, ahora cuando busqué.
Alors la banque a engagé des poursuites contre moi il y a deux ans et je ne peux pas faire la demande d'un crédit à la consommation ou à un prêt immobilier pour m'acheter une maison, par exemple.
No puedo optar a un crédito de consumo. Tampoco puedo optar a un crédito hipotecario, por ejemplo, para comprarme una casa, por ejemplo.
Avant la pandémie de COVID-19, la moitié des Chiliens gagnaient moins de 400 000 pesos par mois, 500 dollars environ, dans un pays où le coût de la vie est proche de celui de l'Espagne. À cela s'ajoutent les inégalités dans le domaine de la santé, qui a été en partie privatisé sous la dictature. Ravira et son fils sont affiliés au système public. Seulement 20% des Chiliens dépendent du secteur privé. C'est le cas de Marcia, mais son assurance lui coûte l'équivalent de 200 dollars par mois.
C'est extrêmement cher. Heureusement, je suis en bonne santé, je n'ai pas de maladie chronique. Mais c'est vrai que j'ai dû me faire opérer deux fois de la colonne vertébrale et grâce à mon assurance privée, je n'ai rien eu à payer. Si j'étais dans le public, j'aurais dû payer de ma poche une partie de l'opération et je serais peut-être encore en train d'attendre un rendez-vous qui se libère.
Si les Chiliens, comme Marcia et sa fille, ont accumulé tant de colère contre les inégalités sociales dans leur pays, c'est aussi à cause de récents scandales de corruption dans la classe politique et les grandes entreprises, d'autant plus que les responsables ont souvent vu réduire leur peine à de simples amendes. Alors quand Javiera repense aux demandes des manifestants ces dernières années qui n'ont pas été entendues, elle comprend que certains aient participé à des émeutes urbaines en octobre 2019.
C'est comme ça que les choses fonctionnent au Chili. Si on ne brûle pas de bus, si on ne coupe pas la circulation, si on ne détruit rien, eh bien malheureusement, ça ne passe pas aux infos. Et les politiques ne cherchent pas à changer vraiment les choses. Si on manifeste juste avec une pancarte, personne n'écoute.
Et en effet, face aux manifestations massives et aux émeutes l'an dernier, la coalition de droite au pouvoir depuis 2017 a finalement accepté l'idée d'organiser un référendum sur ce sujet. Aujourd'hui, la droite la plus conservatrice fait campagne pour le rechazo, le refus d'une nouvelle constitution. Depuis la levée progressive du confinement, les partisans les plus radicaux de la constitution actuelle se réunissent le samedi matin dans les quartiers d'affaires de Santiago au son de l'hymne chilien. Presque tous les participants portent des drapeaux bleu, blanc, rouge aux couleurs du Chili. Certains sont venus avec des casquettes siglées « Make Chile Great Again », inspirées des slogans de campagne du président américain Donald Trump. On voit même quelques drapeaux de l'Empire espagnol, dont le Chili est une ancienne colonie. Gonzalo de la Carrera, membre d'un parti d'extrême droite nostalgique de la dictature, prend la parole devant quelques centaines de personnes avant le départ du cortège.
On a essayé de nous faire taire. Les médias ont convaincu nos partisans que nous allons perdre, mais c'est faux. Nous n'allons pas perdre et nous allons aller voter. C'est l'élection la plus importante des 50 années à venir. Souvenons-nous de ce pays que nous voulons être, que nous avons été, une fierté pour l'Amérique latine. Mais certains ont honte de cela, ils veulent détruire le pays. Nous n'allons pas accepter cela, mais nous réagirons de façon pacifique avec notre bulletin de vote. Et nous allons dire non à une nouvelle constitution le 25 octobre. Vive le Chili!
Quelques instants plus tard, un manifestant reprend ce même cri, mais y ajoute le nom de l'ancien dictateur. « Vive le Chili et Pinochet », dit-il. Plus loin, Maria Cecilia, la soixantaine, porte un masque sur lequel il est écrit « Rechazo », je refuse une nouvelle constitution.
Certains veulent qu'on leur donne tout gratuitement, ils veulent détruire le pays et que tout dépende de l'État. Nous avons une constitution qui a été synonyme de développement et de stabilité économique. Je ne veux pas d'une nouvelle constitution, celle-ci est bien faite. On peut faire des réformes, certaines choses peuvent être modifiées, et cela peut se faire avec le Congrès actuel par le biais de simples lois.
Loin des rassemblements d'extrême droite, des milliers de réunions publiques ont été organisées spontanément par les Chiliens, quartier par quartier, depuis octobre dernier. Objectif, savoir ce que les habitants souhaitent pour leur nouvelle constitution. Dans quelle société veulent-ils vivre ? Féminisme, reconnaissance des peuples indigènes, protection de l'environnement et évidemment droits sociaux. Énormément de thématiques ont été abordées et feront partie des enjeux de la campagne qui s'ouvrira le lendemain du plébiscite si le oui à une nouvelle constitution l'emporte ce dimanche. Car en avril prochain, les Chiliens devront alors élire ceux qui les représenteront pour rédiger ce nouveau texte. Alfredo Joignan, professeur de sciences politiques.
Tout porte à croire, selon tous les sondages, que non seulement l'option « j'approuve le changement constitutionnel » va gagner, mais aussi une importante augmentation de la participation électorale, vraisemblablement au-delà des 60% de votants effectifs, malgré la pandémie. Par la suite, il faut s'attendre à une élection difficile pour l'opposition de gauche au mois d'avril. Le problème est que la gauche et les forces de centre-gauche sont extraordinairement divisées. Si c'est l'unité des forces de gauche et de centre-gauche qui prime avec les candidats indépendants, qui vont être extrêmement nombreux, effectivement donc, c'est un horizon social-démocrate qui commence à émerger dans l'horizon.
Pour les partisans d'une nouvelle constitution, rien n'est donc acquis pour l'instant. La plupart n'ont pas confiance dans les partis politiques, mais ils voient dans le scrutin de ce dimanche une opportunité de changer leur pays. C'est le cas de Felipe Riquelme, 41 ans. Il fait partie des plus de 450 blessés aux yeux par les forces de l'ordre pendant le mouvement social. En novembre dernier, il a reçu une bombe lacrymogène au visage tirée par un policier et il a perdu son œil gauche.
Depuis le 18 octobre jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé en Chile.
Depuis le 18 octobre 2019 au Chili, rien n'a changé. Mais maintenant, en ce mois d'octobre 2020, nous avons l'opportunité de faire bouger les lignes. Ce scrutin, c'est la seule chose que nous ayons obtenue. Pendant longtemps, je n'ai pas voté, je ne suis affilié à aucun parti politique. Je me disais, ils ne me représentent pas. Mais maintenant, je pense que c'était une erreur, j'ai changé d'avis. Cela dit, je ne pense pas qu'une nouvelle constitution change tout. Cela peut permettre de poser les bases de la société qu'on veut construire, égalité, dignité, éducation, accès au logement et à la santé, des retraites dignes pour les personnes âgées, le respect de la nature et des peuples indigènes. Ce scrutin marque peut-être le début du changement dans mon pays, donc je veux saisir cette opportunité et je vais aller voter.
Et si c'est l'initio d'un cambio real en mi país, yo lo tomo. Sí voy a votar.
Au Chili, l'espoir d'en finir avec la constitution de la dictature, un grand reportage de Justine Fontaine, réalisation Pierre Chaffanjon.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue.